これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ
レゲーサワー、 une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Elsa Zilberstein.
À la réalisation, François Connac.
La philosophie n'est pas une mode, la philosophie, c'est une nécessité. Les problèmes qu'elle se pose ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui, mais les problèmes de toujours. C'est la raison pour laquelle le Gai Savoir se propose, chaque dimanche, d'ouvrir sans raison un chef-d'œuvre de la pensée et d'en servir la moelle aux auditeurs de France Culture. Conçu comme un cours, improvisé comme un dialogue, scandé par la lecture de quelques extraits de chaque texte, l'émission commence cette semaine, comme il se doit, par le livre qui lui donne son titre autant que sa raison d'être, Le Gai Savoir de Nietzsche. Un ouvrage merveilleux, vous verrez, qui réussit le tour de force insensé de rendre son lecteur heureux sans jamais, jamais rien lui cacher d'un monde qui n'est pas là pour lui faire plaisir.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
C'est donc du Gai Savoir et de Nietzsche que nous parlerons aujourd'hui. Abstraction faite de son épaisse moustache, Nietzsche ne ressemble en rien au viking germanique auquel on l'associe souvent. S'il y avait matière à comparaison, c'est bien plutôt à la souplesse et la légèreté du funambule qu'il faudrait penser. Constamment sur la corde raide, il ne cède pas au vertige du nihilisme et la philosophie de son Gai Savoir, qui voit le jour au printemps 1882, nous laisse imaginer ses pas assurés et joyeux dansant au bord de l'abîme. Les 5 livres qui composent le Gai Savoir dans sa version définitive sont l'œuvre d'un convalescent qui a fait peau neuve et laisse derrière lui les privations et les faiblesses d'un long hiver. En fait, si Nietzsche est si seul, c'est surtout parce qu'il n'est pas compris ou très peu écouté, lui qui s'est fait l'adversaire des disciples de Schopenhauer et de la clique des Wagneriens. Tel l'unique sobre dans un monde d'ébriété, il ressemble étrangement au célèbre insensé de l'aphorisme 125 que je vous propose d'entendre maintenant.
L'insensé. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme insensé qui, ayant allumé une lanterne en plein midi, courait sur la place du marché et criait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Et comme là-bas se trouvaient précisément rassemblés beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il suscita une grande hilarité. « L'a-t-on perdu ? » dit l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ? » dit un autre. « Ou bien se cache-t-il quelque part ? » « A-t-il peur de nous ? » « S'est-il embarqué ? » « A-t-il émigré ?» Ainsi ils criaient et riaient tous à la fois. L'insensé se précipita au milieu d'eux et les perça de ses regards. « Où est Dieu ? » « Je vais vous le dire. » Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ses meurtriers. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait à désenchaîner cette terre de son soleil? Ne fait-il pas nuit sans cesse et de plus en plus nuit? Ne faut-il pas allumer les lanternes dès le matin? Ne sentons-nous rien encore de la putréfaction divine? Les dieux aussi se putréfient. Dieu est mort. Dieu reste mort. Et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde avait possédé jusqu'alors de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux. Qui essuiera ce sang de nos mains? Quelle eau lustrale pourra jamais nous purifier? Il n'y eut jamais d'action plus grande, et quiconque naîtra après nous appartiendra, en vertu de cette action même, à une histoire supérieure à tout ce que fut jamais l'histoire jusqu'alors. Ici, l'homme insensé se tut et considéra à nouveau ses auditeurs. Eux aussi se taisaient et regardaient sans comprendre. Enfin, il jeta sa lanterne au sol, si bien qu'elle se brisa et s'éteignit. J'arrive trop tôt. Mon temps n'est pas encore venu. Ce formidable événement est encore en marche et voyage. Il n'est pas encore parvenu aux oreilles des hommes. Il faut du temps à la foudre et au tonnerre. Il faut du temps à la lumière des astres. Il faut du temps aux actions, après leur accomplissement, pour être vu et entendu. Cette action-là leur est encore plus lointaine que les astres les plus lointains. Et pourtant, ce sont eux qui l'ont accomplie.
Paola.
Et que reste-t-il après la mort de Dieu ?
Il reste son ombre. C'est bien le problème. L'ombre de Dieu, c'est ce dont Nietzsche parle au paragraphe 108 du Gai Savoir, qui est le premier paragraphe du livre 3. Et c'est un paragraphe qui s'appelle « Les nouvelles luttes ». Alors on peut se dire d'ailleurs que « nouvelles luttes », il va faire tout un bréviaire, il va y avoir 50 nouvelles luttes possibles, les nouveaux combats, etc. Pas du tout, ça fait 6 lignes. Et il cite juste le Bouddha, comme il a plaisir à le faire d'ailleurs assez souvent. Et il dit « Après que le Bouddha fut mort, on montra encore des siècles durant son ombre dans une caverne, ombre formidable et effrayante. Dieu est mort. Mais telle est la nature des hommes que des millénaires durant peut-être, il y aura des cavernes où l'on montrera encore son ombre. Et quant à nous autres, il nous faut vaincre son ombre aussi. » Si j'ose dire, tuer Dieu, c'est le premier acte. Le véritable meurtre, le véritable crime, ou plus exactement, la rédemption du crime, c'est de tuer l'ombre de Dieu.
Et son ombre, c'est le besoin que nous avons de croire en Dieu ?
Alors oui, c'est le besoin que nous avons de croire en Dieu. Parce que la question n'est pas tellement celle de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. D'une certaine manière, son compte est réglé. Non, la question est de savoir d'où vient le besoin que nous avons de croire en lui. Or, là, Nietzsche est quand même le disciple de Schopenhauer, il l'est encore. Parce que pour Schopenhauer, si Dieu existait, en d'autres termes, si nous ne mourions pas, nous n'aurions pas besoin d'y croire. De sorte que le simple fait que nous éprouvions le besoin de croire en Dieu prouve que Dieu est mort. En d'autres termes, le véritable problème que pose la mort de Dieu, c'est que maintenant on a un adversaire beaucoup plus conséquent, qui est toutes les raisons que nous avons eues d'en créer un, c'est-à-dire l'ombre de Dieu, toutes les valeurs absolues auxquelles nous sommes soumis et auxquelles nous continuons d'être soumis. Et c'est beaucoup plus difficile de tuer l'ombre de Dieu que de tuer Dieu. Que Dieu soit mort, bon, pourquoi pas, mais l'idéologie, le dogme, la cristallisation, l'envie de croire, les passions collectives, la conscience de soi. L'ombre de Dieu, c'est un caméléon, Paola, beaucoup plus souple et retors que la forme déifique qu'elle a prise provisoirement. En fait, l'ombre de Dieu, c'est la mère de Dieu elle-même. L'ombre de Dieu précède Dieu, et tuer Dieu n'est qu'un premier pas vers tout ce dont il faut se débarrasser pour être enfin libre, hein, du point de vue de Nietzsche.
Mais le problème de l'homme, c'est pas plutôt qu'il se retrouve face à sa liberté. C'est Dostoïevski qui disait dans Les Possédés, je crois, si Dieu n'existait pas, tout serait permis.
Bah oui, c'est l'enjeu d'ailleurs, c'est ce que vous disiez au début de l'émission. On a beaucoup identifié Nietzsche au nihilisme, justement, c'est-à-dire à un néant de valeur, en définitive. Il ne s'agit pas pour Nietzsche de promouvoir un néant de valeur. Nietzsche dit, c'est une mesure de l'énergie, de savoir jusqu'où on peut vivre dans un univers dénué de sens. Mais le même Nietzsche fait valoir qu'il faut remplacer des valeurs par d'autres valeurs, ou plus exactement, s'interroger sur la valeur des valeurs auxquelles nous avons cru jusqu'ici. Alors, pour répondre à votre question dostoïevskienne, qui est vraiment l'écueil nietzschéen, ah oui, bah Dieu est mort, donc tout est permis, donc c'est l'anarchie. Nietzsche est le contraire d'un défenseur de l'anarchie, il est plutôt partisan des régimes autoritaires, et en art, il est partisan des formes classiques. Comment c'est compatible, ça ? Parce que, au fond, si Dieu est mort, rien ne m'empêche de vous tuer. Rien. Mais si Dieu n'a jamais vécu, rien ne m'y pousse. Donc il faut plutôt inverser les termes du problème. Ce n'est pas que tout est permis parce que Dieu venait interdire quelque chose. C'est d'où vient le désir que nous avons eu de nous interdire tant de choses ? À quoi cela tient-il ? Et comment faire un bon usage de cette liberté nouvelle, de cette conquête nouvelle ? En quoi consiste la mort de Dieu ?
Mais alors, comment surmonter le nihilisme, justement ?
Oh, vous me posez la question la plus difficile du monde, alors qu'on est au début et de cette émission, et de l'émission elle-même qui porte le nom du livre dont on parle aujourd'hui. Comment surmonter la mort de Dieu ? Écoutez, je vous donne un paragraphe, par exemple. Je vous réponds par Nietzsche lui-même, hein, ce qui n'est pas une façon d'éluder la question, c'est une façon de se plonger dans le texte. Le paragraphe 357, Nietzsche dit ceci. « On voit ce qui, en somme, a remporté la victoire sur le Dieu chrétien, la moralité chrétienne elle-même. » La notion de véracité prise dans un sens de plus en plus rigoureux. La subtilité de la conscience chrétienne développée par les confesseurs, traduite et sublimée en conscience scientifique, jusqu'à la netteté intellectuelle à tout prix. Alors ça, tiens, on peut partir là-dessus, c'est très intéressant. Il y a une des postérités de la religion, du désir de croire chez Nietzsche, c'est la science. Or, on a identifié, il est d'usage d'identifier, ou d'opposer plus exactement, la religion et la science, comme la croyance et la rationalité. Hein? La raison n'a pas de croyance. La raison est du registre, relève de l'objectivité. La croyance relève de la foi. La raison transcende la singularité d'un sujet. La croyance est une affaire intime, personnelle. Bon, on les oppose, hein, comme on oppose la religion et la science. Bon. Or, Nietzsche explique que la science prolonge la religion. Et il le montre de deux manières. D'abord, il dit que la démarche scientifique, de façon générale, ça c'est plutôt dans le Crépuscule des idoles, mais on le trouve déjà dans le Gai Savoir, la science continue, comme la religion, de faire de chaque phénomène les cas particuliers d'un concept ou d'un ensemble plus large. De la même manière que nous sommes tous les créatures de Dieu, la science range, classifie chaque phénomène dans un ensemble plus large, de sorte que la science emprunte à la religion sa structure, qui est d'une structure déterminante, c'est-à-dire avec un concept et puis des réalités particulières qu'elle viendrait recouvrir et embrasser. Et puis, il considère également que la science prolonge la religion, et ça c'est extraordinaire, il pense à Descartes en fait, en montrant que la science, comme la religion, met l'homme au centre du monde. Alors, la religion met l'homme au centre de la création. Ok. La science met l'homme au centre de la science. Et à l'origine de la science. C'est Descartes. Et Descartes, c'est vrai, le projet cartésien, qui est soi-disant un projet de table rase, est en fait un projet qui emprunte à tous ceux avec qui il veut divorcer le sentiment de la centralité de l'homme. C'est celui qui n'a pas décentré l'homme, c'est celui qui n'a pas renoncé à humaniser le monde, au fond, Descartes. Alors que le monde, dit Nietzsche dans Le Gai Savoir, est redevenu inhumain.
Descartes dit se faire possesseur, maître et possesseur de la nature.
Se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est dans le discours de la méthode, vous avez raison de le citer. Il faut rendre justice à Descartes, hein, parce que c'est comme maître et possesseur de la nature. C'est une phrase qu'on a pu situer à l'origine de tous les abus de l'homme sur la nature, de toutes les façons dont l'homme a voulu s'emparer de la nature, au fond, hein, et la dompter, la domestiquer, la mettre à sa main. Or, dit Nietzsche, Nietzsche est un généalogiste. Il dit de quelle pathologie ce désir de soumettre la nature est-elle le symptôme ? Eh bien, la pathologie en question, c'est le sentiment que l'homme est au centre du monde. Et Nietzsche, qui lui est l'héritier de Spinoza, qui est un grand décentreur, justement, appartient à ceux qui, à la tradition des philosophes, qui humilient l'homme, c'est-à-dire qui le remettent à sa place, c'est-à-dire pas au centre, justement. L'homme n'est plus le centre du monde. Il faut décentrer l'homme. Et alors, tiens, juste encore un point sur cet engendrement de la science par la religion. Il y a un autre point qu'on néglige en général d'ailleurs dans les études sur Nietzsche, alors que c'est très intéressant, c'est le mythe de la cause et de l'effet. Nietzsche s'en prend à la mythologie causale, ce qu'il appelle la mythologie causale. Le mythe de la cause et de l'effet, une cause, un effet. Or, qu'est-ce que Nietzsche voit là-dedans ? Il ne dit pas que c'est faux, mais il dit que c'est plat. Et surtout, il repère là-dedans la croyance dans l'immédiateté, la simplicité du vouloir telle que Dieu la signifie. En fait, la science, comme la religion, c'est des façons que nous avons de simplifier le monde, c'est-à-dire de le falsifier. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la simplification du monde est toujours abusive et relève d'une emprise de l'homme sur le monde, d'un monde qui refuse, ou plus exactement, d'un monde qui, en lui-même, c'est une belle phrase de Nietzsche, n'est pas là pour nous faire plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'un monde qui est inhumain. Comment assumer, c'est tout l'enjeu du Gai Savoir. Le Gai Savoir est un savoir tragique. Parce que le Gai Savoir, c'est quoi ? C'est comment assumer le fait que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Que ce monde soit glacial, inhumain. Comment l'assumer et en plus s'en réjouir ? C'est tout l'enjeu du Gai Savoir. Toutes les émotions qui viennent quand on lit le Gai Savoir viennent de cette découverte-là. D'ailleurs, c'est un texte, je ne sais pas, à quel âge vous l'avez lu, Paola ?
À 16 ans.
Voilà. C'est un peu imprudent, ça, non ? Quel souvenir vous en gardez ?
C'était le premier texte de philosophie que je lisais, en plus,
ouais,
le Gai Savoir.
Ouais.
Eh bien, si je suis là déjà, c'est que ça ne m'a pas trop traumatisée, mais c'est vrai que ça m'a bouleversée. c'est pas ce qu'on nous disait au lycée, c'est pas l'enseignement qu'on avait reçu, surtout sur les erreurs.
C'est-à-dire les erreurs ?
Eh bien, avec Nietzsche, on n'est pas puni de nos erreurs. Mm-hmm. Contrairement, par exemple, avec Descartes.
Descartes tient à un moment très précis des méditations métaphysiques. D'ailleurs, il s'en défend ensuite plusieurs fois. Il dit non, c'est pas vrai, etc. Mais enfin bon, il le dit quand même. Hein. Il tient l'erreur pour une forme du péché. Et puis l'erreur est une forme du néant, sans qu'elle soit un péché ou pas. L'erreur est une faute. Et elle tient à la présence du néant en nous. De sorte que pour Descartes, quand on avance dans la science, on avance par récusation de l'erreur, par rejet de l'erreur. Contrairement à Spinoza, contrairement à Bachelard, contrairement à Pasteur. Pasteur voulait laisser grouiller les microbes. C'est comme ça qu'il a découvert le vaccin contre la rage. Bachelard, alors évidemment, s'en prend à l'opinion, dont il trouve qu'elle pense mal, qu'il faut battre en brèche, etc. Mais enfin, Bachelard est celui qui fait droit quand même à l'onirisme, à l'aptitude qu'ont les hommes à se laisser prendre par leur imaginaire. Spinoza, c'est celui qui dit que l'erreur est déjà un début de connaissance. Et Nietzsche, c'est celui qui s'interroge sur ce que les erreurs peuvent avoir d'utile. D'où viennent les erreurs que nous faisons ?
Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des interprétations.
Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. D'ailleurs, c'est embêtant parce que, comme Gandhi l'a dit, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. C'est dans Par-delà bien et mal, c'est pas dans Le Gai Savoir, mais ça pourrait s'y trouver. Hein. Il dit il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Et puis, immédiatement après, il se fait l'objection, il dit « Oui, mais alors vous allez me dire que ça, ce que je viens de dire, n'est pas un fait, mais une interprétation. » Eh ben, tant mieux. C'est un homme qui assume tellement ses erreurs.
Ses contradictions.
Oui, et ses contradictions, qu'il les revendique presque. Et on est avec Nietzsche en présence d'une philosophie qui reconnaît, assume, éprouve ses contradictions et qui ne vit pas comme contradictoire le fait de se contredire. Alors que la plupart des philosophes, notamment les fabricants de systèmes, les malhonnêtes aux yeux de Nietzsche, sont ceux qui veulent lisser toutes leurs contradictions au point de les rendre complètement homogènes, au point de ne plus jamais se contredire. Mais un philosophe qui ne se contredit pas est un philosophe qui a renoncé à penser pour croire. Vous savez, ce sont les gens qui croient qu'ils savent sans savoir qu'ils croient. Or, Nietzsche, lui, fait valoir l'ampleur, la nécessité, le besoin que nous avons de nous contredire. D'ailleurs, lui-même se contredit 1000 fois dans Le Gai Savoir, et ça n'est pas pour rien dans la gaieté du savoir en question. Hein.
On a parlé de religion, on a parlé de science. Je vous propose maintenant de parler d'amour. On ne va pas être déçu avec Nietzsche. C'est l'aphorisme 14 dans le premier livre du Gai Savoir. Tout ce qu'on appelle amour.
Notre amour du prochain n'est-il pas un désir impérieux de nouvelles propriétés ? Et n'en est-il pas de même de notre amour de la science, de la vérité, et en général, de tout désir de nouveauté ? Nous nous lassons peu à peu de ce que nous possédons depuis longtemps, en toute sécurité, et nous nous mettons à étendre de nouveau les mains. Même le plus beau paysage où nous vivons depuis 3 mois n'est plus certain de notre amour. Et c'est un rivage lointain qui excite notre avidité. L'objet de la possession s'amoindrit généralement du fait qu'il est possédé. Le plaisir que nous prenons à nous-mêmes veut se maintenir en transformant en nous-mêmes quelque chose de toujours nouveau. C'est là ce qu'on appelle posséder. Se lasser d'une possession, c'est se lasser de soi-même.
On est en plein dans une conception proustienne de l'amour. Parce qu'après tout, le malheur de Marcel, c'est son incapacité de posséder pleinement Albertine. C'est son incapacité d'abolir la distance entre lui et elle. Et on peut renvoyer les auditeurs à la prisonnière de La Recherche du Temps Perdu.
Oui, dans La Prisonnière, vous avez tout à fait raison de citer Proust. Voilà, parce que dans La Prisonnière, il dit ceci, il dit ceci, on dirait qu'il a lu Nietzsche, c'est possible d'ailleurs. C'est un Nietzsche francisé, c'est un Nietzsche traduit, parce qu'il faut faire la part du contexte dans les connaissances et dans l'amour que Proust porte à la philosophie. Nietzsche dit « L'amant vise à l'appauvrissement et à la privation de tous les autres concurrents et ne demande qu'à devenir le dragon de son trésor. » Pourquoi « l'amour est-il un dragon ? Parce qu'il n'est pas sûr de posséder ce qu'il possède. De la même manière qu'on est fanatique quand on a un doute sur la croyance qui nous anime, on est le dragon de son trésor quand on n'est pas sûr d'être véritablement le propriétaire de son trésor. Et effectivement, la nature du désir amoureux, qui est un désir de possession, la nature du désir amoureux suppose qu'on en fasse la généalogie. D'où vient le désir que vous avez de posséder quelqu'un ? Elle vient du sentiment qu'on ne possède jamais rien et qu'on ne possède jamais personne. Et dans La prisonnière, Proust dit, parlant d'Albertine, qu'il séquestre hein, littéralement chez lui, « Elle était si bien encagée que certains soirs même, je ne faisais pas demander qu'elle quittât sa chambre pour la mienne, elle que jadis tout le monde suivait, que j'avais tant de peine à rattraper filant sur sa bicyclette, et que le liftier même ne pouvait me ramener, ne me laissant guère d'espoir qu'elle vînt, et que j'attendais pourtant toute la nuit. Albertine n'avait-elle pas été, devant l'hôtel, comme une grande actrice de la plage en feu, excitant les jalousies quand elle s'avançait dans ce théâtre de nature, ne parlant à personne, bousculant les habitués, dominant ses amis ? Et cette actrice si convoitée, n'était-ce pas elle qui, retirée par moi de la scène, enfermée chez moi, était à l'abri des désirs de tous, qui désormais pouvaient la chercher vainement, tantôt dans ma chambre, tantôt dans la sienne, où elle s'occupait à quelque travail de dessin et de ciselure. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il remplace, au fond, le dépit de ne pas vraiment posséder Albertine par la joie mauvaise d'en priver les autres. C'est une forme de possession. Et en fait, celui qui, faute de posséder, prive les autres de l'objet qu'il voudrait posséder, celui-là est possédé par l'objet qu'il croit posséder. Il est littéralement l'objet ou la victime du désir qui est le sien, qui, comme c'est un désir dicté par le manque, ne peut jamais finalement se satisfaire. C'est le tonneau des Danaïdes. On ne possède jamais l'être qu'on voudrait posséder. Et apprendre à aimer, c'est aussi apprendre à ne pas posséder. Apprendre à aimer, c'est apprendre à être séparé de celui qu'on voudrait posséder. Par exemple, dans le paragraphe en question, à un moment, il dit « Le bien possédé se déprécie généralement du fait de la possession. » Il y a un personnage dans Candide de Voltaire, le seigneur Pococurante. Il a tout ce qu'il faut. Il a la bibliothèque absolue. Il a le château. Il a le jardin. Il a les gens. Il a l'argent. Il a les amis. Et tout ça l'ennuie. Tout ça lui tombe des mains. C'est le problème des ambitieux, si vous voulez. Ce qui pourrait arriver de pire à un ambitieux, c'est quand il arrive. À l'arriviste, le drame de l'arriviste, c'est d'arriver. Le drame de l'ambitieux, c'est de parvenir à ses fins. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il y est ? Ce personnage dans L'âge de glace. Vous regardez L'âge de glace ou pas, Paola ?
Vous parlez de Scratch.
Scratch, c'est ce qu'on fait sur les micros, là, qu'on abîme les oreilles de Michel Mestre. Scratch, c'est cette petite bestiole sympathique qui passe les quatre épisodes de L'âge de glace à courir après son gland. Celui qu'il voudrait posséder. Et il ne sait pas quoi en faire une fois qu'il le tient. Donc une fois qu'il le tient, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il le repère, forcément. Et puis il continue à lui courir après. C'est une métaphore, une parabole de l'existence extraordinaire. Or, Nietzsche est exactement celui qui repère dans le désir de possession la vanité d'un désir qui ne cesse de s'épuiser à chercher un objet qui ne peut pas le combler.
Oui, mais lorsque Nietzsche propose à Lou, Andrea Salomé, un contrat de mariage, il ne fait pas autre chose. C'est encore une façon de posséder le mariage.
Me marier, dit-il, il faudrait que je m'établisse menteur quelque part. C'est ce qu'il a dit à Paul Rey, juste avant de demander à Paul Rey de demander Lou en mariage pour lui.
Or, il assume ses contradictions.
Oui, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment assumé celle-là, hein, parce qu'il a quand même demandé à Paul Rey de transmettre à Lou sa demande en mariage, lequel Paul Rey, en ami peu fiable, a transmis une demande en mariage, mais pour lui-même. Laissons de côté l'histoire de ce ménage à trois, Nietzsche, Lou et Paul Rey. Le fait est que Nietzsche a voulu se marier, oui. Nietzsche a voulu se marier, mais c'est pas parce qu'il a voulu se marier que c'est un défenseur du mariage. Là, de toutes les contradictions, on est vraiment dans la plus manifeste. Nietzsche ne cesse de critiquer le mariage de façon générale. Il ne cesse de critiquer ce qui relève d'une pétrification des sentiments. Nietzsche est l'ennemi. On pourrait rester à l'infini sur la critique qu'il propose du mariage. Mais je crois qu'il y a plus intéressant que ça. Il me semble que ce qui compte ici, c'est la critique de tout ce qui se solidifie. Nietzsche est l'adversaire de tout ce qu'on peut réifier, de tout ce qu'on peut solidifier, de tout ce qui viendrait conjurer la mobilité essentielle du monde et la remplacer par quelque chose de solide, de géométrique.
Il existe un amour qui échappe à cette solidification. C'est l'amour de la philosophie. L'amour de la philosophie, c'est l'amour du mouvement. Puisque la philosophie est justement ce qui échappe toujours à la possession. On ne peut pas s'accaparer la vérité.
Oui, mais si je suis votre raisonnement, mettons que la philosophie soit amour de la sagesse. Bon, amour de la sagesse, étymologiquement, c'est ce qu'elle est. Elle est amour de la sagesse. Or, dit Platon, que désire-t-on ? Et qu'aime-t-on ? On aime ce dont on manque. Le véritable objet de l'amour, dit Platon, c'est ce dont on manque. De sorte que nous n'aimons la sagesse que parce que nous en manquons. Traduction. L'amour de la sagesse est un amour passage. Non pas un amour de passage, mais un amour passage. C'est un amour fou. Aimer la sagesse, c'est se méprendre sur la nature même de l'amour. Parce que aimer la sagesse, c'est antéposer ou c'est mettre la sagesse à telle distance de soi qu'on est condamné à la rechercher sans jamais la saisir. Et on entretient à ce moment-là avec la sagesse un rapport qui est le même que celui que l'amant entretient avec la femme qu'il aime. Elle lui échappe toujours. Albertine échappera toujours au narrateur. De la même manière, parce que une partie d'elle-même accède à l'infini, c'est-à-dire à tout l'univers auquel lui-même n'a pas droit. La sagesse, on ne la possède pas. C'est comme le gland de Socrate, si vous voulez.
C'est comme l'horizon.
C'est comme l'horizon. C'est pas parce qu'on marche vers lui qu'il se rapproche. Non, l'horizon, justement, la nature du désir que nous avons, de la même manière que la nature de notre regard repousse l'horizon à mesure que nous nous approchons, entre guillemets, de lui, la nature du désir que nous avons d'être sages s'arrange, du point de vue de Nietzsche, pour mettre la sagesse à distance constante. Alors vous avez ceux qui s'en réjouissent en disant « ben voilà, c'est l'aiguillon, ça va nous permettre, ça donne un sens à la vie, ça oriente l'existence ». Oui, mais à cela, Nietzsche oppose le modèle d'une sagesse de l'amour, c'est-à-dire d'un gai savoir, c'est-à-dire d'une capacité à aimer, ici et maintenant, aimer ce qu'il y a d'immédiat, aimer ce que nous avons sous la main, aimer ce qui passe. Aimer ce qui ne dure pas. C'est beaucoup plus difficile d'aimer ce qui ne dure pas que d'aimer ce qui est éternel. Parce que ce qui est éternel, n'existant pas, déjà, nous déprend, nous permet de l'aimer à peu de frais. C'est très facile d'aimer quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas. Aimer celui qui existe, aimer par exemple la personne qu'on a en face de soi malgré ses imperfections, malgré tout ce qui en elle échappe au désir qu'on voudrait avoir d'elle ou à l'image qu'on s'en fait. Aimer quelqu'un malgré cela, aimer en étant déçu. C'est la sagesse de l'amour contre l'amour de la sagesse. Il y a chez Nietzsche l'idée d'un amour qui va plus loin, c'est-à-dire beaucoup plus près que l'amour de la sagesse. C'est trop facile d'aimer la sagesse. C'est trop facile d'être avec la sagesse dans un rapport de frustration permanente. Là, on a chez Nietzsche une critique au fond de ceux qu'il appelle les docteurs du but de l'existence. Les docteurs du but de l'existence sont ceux qui vous mettent un but très 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 loin, une sorte de Graal comme ça, vers lequel il faut tendre, vers lequel il faut ramer, marcher à l'infini, et qu'on n'atteint jamais. Oui, mais ça nous fait une belle jambe, si vous voulez. Non, Nietzsche dit, non, tout de suite, maintenant, là, la vraie sagesse consiste à aimer. D'ailleurs, à aimer même les dieux qui se putréfient, comme il le dit ici. On retrouve ça chez Camus. Qu'ai-je à faire d'une vérité qui n'est pas à ma mesure ? Ici encore, dit Camus, dans Nos, la vérité doit pourrir. Et quoi de plus exaltant ? Qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doit pas pourrir ? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. On est avec Nietzsche comme on est avec Camus, dans l'amour d'une vérité périssable.
Il n'y a pas d'espoir.
Il n'y a pas d'espoir parce que l'espoir, pour deux raisons. Parce que d'abord...
L'espoir, c'est l'attente. Voilà. Ça sera mieux après.
Oui, ça sera mieux après. Ça sera mieux après. D'ailleurs, cet après, peut-être avant. C'est en général, les hommes d'espoir sont aussi de grands nostalgiques. Ça sera mieux hier. C'était toujours mieux avant. Ce sera toujours mieux avant. Ce sera mieux hier, comme ce sera mieux demain. Bref, ce sera pas mieux maintenant. Or, Nietzsche est aussi un penseur du présent. Sois l'ami du présent qui passe. Le futur et le passé te seront donnés par surcroît. C'est une phrase de Clément Rosset, il parodie l'évangile. Mais au fond, il est tellement nietzschéen quand il dit cette phrase. C'est vraiment ça, l'enjeu. Aimer maintenant, tout de suite. Là. Être capable de cet amour-là.
C'est dire oui à la vie.
Et alors là,
On va vers l'éternel retour.
On va vers l'éternel retour. Mais avant cela, il faut bien comprendre. Nietzsche a le sens des... À le sens du nouvel an. Il y a un moment, dans un paragraphe du Gai Savoir, qui s'appelle « Janvier Saint », il dit « Que ceci désormais soit mon but, mon Graal, je ne sais plus, je le cite de mémoire, amor fati, c'est l'amour du destin. Hein. Je ne veux plus jamais être un esprit négateur. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, pour Nietzsche, qu'on identifie en général à tort à une sorte de passion destructrice, terroriste.
Avec son marteau.
Oui, c'est le pas content avec son marteau qui casse tout. Bon, on va y revenir à ça, parce que ça, c'est une idée reçue sur Nietzsche qu'il faut combattre. C'est beaucoup plus grave que de le tenir pour un nazi, parce que le tenir pour un nazi, c'est tellement bête qu'au fond, on peut le laisser de côté. Mais en revanche, le tenir pour un destructeur, c'est moins bête que ça, et donc c'est plus difficile à déconstruire, parce que c'est l'opinion du demi-habile sur Nietzsche. Mais on va y venir. Il y a chez Nietzsche l'idée qu'au principe de la destruction, avant la destruction, en amont de la destruction, il y a un assentiment, un accord, un oui. Il n'y a pas de non sans oui qui le précède. Camus saura s'en souvenir quand il parlera de l'homme révolté. Camus, au début de l'homme révolté, dit « L'homme révolté, c'est l'homme qui dit non. » Mais il dit non parce qu'il dit oui. C'est un oui à la vie qui le fait dire non à ce qu'elle peut avoir d'injuste et qui le porte à la révolte. En situant le oui en amont du non, Camus permet de penser la révolte indépendamment de la révolution. Permet d'éviter à la révolte l'écueil révolutionnaire. Rien n'est plus bête que de tenir Camus pour un révolutionnaire. De la même manière, rien n'est plus bête que de tenir Nietzsche pour un destructeur. Le marteau dont il parle, comment ton philosophe à coups de marteau, c'est le sous-titre du Crépuscule des idoles. Le marteau dont il parle, c'est pas le marteau... C'est un petit peu le marteau du chef de chantier. C'est pas le marteau du destructeur. C'est pas le marteau qui casse tout.
Ça peut être le marteau du sculpteur.
Ça peut être le marteau du sculpteur, vous avez raison. Ça peut être le marteau du piano. Ça peut être le marteau du médecin qui prend votre pouls. C'est tous ces marteaux-là. C'est-à-dire tout ce qui nous permet de sentir le présent et non pas de déconstruire ce qui nous déplaît. C'est parce qu'il marche... Qu'en marchant, il marche sur quelque chose, si vous voulez, et du pied gauche. C'est parce qu'il crée sa propre chance en marchant. C'est parce qu'il dit oui à l'existence, qu'il dit non à ce qu'elle n'est pas, ou qu'il dit non à tous ceux qui lui tournent le dos. Mais au principe de tout cela, il y a un amour. Il faut bien comprendre ça. Nietzsche est un homme d'amour. Jesus
blood. Une après-midi, cheminant à travers bois vers Silva Plana, il s'assit auprès d'une puissante saillie rocheuse, aujourd'hui consacrée à sa mémoire, non loin du lieu appelé Surlei. Les eaux du lac de Sils baignent la base de cette saillie qui, dans ses proportions réduites, garde la majesté d'une cime, aiguisée comme un pic. C'est là que Nietzsche fut ravi en extase.
L'éternel retour. Que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise « Cette vie, telle que tu la vis maintenant et telle que tu l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Il n'y aura rien de nouveau en elle, si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement et tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans ta vie devront revenir pour toi. Et le tout dans le même ordre et la même succession. Cette araignée est là également, et ce clair de lune entre les arbres, et cet instant-ci, et moi-même. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, et toi avec lui, ô grain de poussière de la poussière. Ne te jetterais-tu pas sur le sol, grinçant des dents et maudissant le démon qui te parlerait de la sorte? Ou bien te serait-il arrivé de vivre un instant formidable où tu aurais pu lui répondre « Tu es un dieu et jamais je n'entendis chose plus divine ».
Yeah.
Voilà, c'est l'éternel retour.
Et ce n'est pas une question à prendre à la légère. Notamment dans le...
C'est une question à prendre à la légère.
Mais notamment dans le problème de la responsabilité qu'elle soulève.
C'est-à-dire ?
Je me souviens dans l'insoutenable légèreté de l'être, de mémoire, le narrateur au tout début a cette phrase « Si chaque seconde de notre vie doit se répéter un nombre infini de fois, nous sommes cloués à l'éternité comme Jésus-Christ à la croix. »
C'est le tout début de l'insoutenable légèreté, qui déconcerte d'ailleurs les lecteurs au début. Hein. Mais il commence sur l'éternel retour. C'est marrant parce que Kundera commence par l'éternel retour et il finit par un hommage à Anna Karenine, avec le chien
le
Karenine.
Le sourire de Karenine.
Et le sourire de Karenine, c'est le nom du chien qui meurt à la fin. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, si on vous dit que la mort de votre chien, vous devrez la revivre un nombre infini de fois, il n'est pas sûr qu'on ait la force de le désirer. Or, quel est l'enjeu de l'éternel retour ? L'enjeu de l'éternel retour, ça n'est pas, comme on a pu le dire très bêtement là aussi, c'est le problème avec Nietzsche, hein, c'est qu'il faut toujours nettoyer avant d'en parler. Il faut toujours enlever les... Alors là, pour le coup, les interprétations non pas fausses, mais pauvres de Nietzsche. Il ne s'agit pas de dire que les choses reviennent à l'infini. Il s'agit de se mettre dans la perspective selon laquelle ce que nous vivons reviendrait à l'infini. C'est tout à fait différent. Il ne s'agit pas de dire tout revient à l'infini, parce qu'à ce moment-là, on s'en fout. Des choses comme elles arrivent, puisque de toute façon elles reviendront. Non, il s'agit de vouloir ce qui arrive au point d'en désirer le retour éternel, y compris de ce que la vie peut avoir de pire et de terrifiant. Alors, vous pourriez me dire, il est fou. Comment peut-on désirer le retour de ce qui est désagréable, atroce, terrifiant ou tragique ? Comment peut-on le désirer ? À quoi j'ai envie de vous répondre ? Bien sûr, il est absurde de désirer ce qui est désagréable. Mais dans le même temps, ne pas désirer ce qui est désagréable, pire, se plaindre de ce qui est désagréable, c'est souffrir deux fois. Un, du désagrément produit par ce qui est désagréable. Deux, de la plainte qui s'élève contre la souffrance que ce qui est désagréable vient de nous infliger. De sorte que la folie qui consiste à désirer le retour de ce qui est désagréable est une folie beaucoup plus sage que l'attitude assez conséquente du type qui, souffrant, dit qu'il souffre, et en disant qu'il souffre, souffre au carré. Donc l'éternel retour, c'est une façon de diluer la souffrance, non pas dans le désir que nous en avons, on va parler hein, du dolorisme nietzschéen, parce que c'est vraiment très très important, son école de la douleur. Mais avant de parler de cette école de la douleur chez Nietzsche, il faut rester un instant là-dessus. L'éternel retour, c'est l'aptitude à aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel et par là même à dissoudre ce qui nous fait souffrir dans l'intérêt que nous lui trouvons, dans le désir que nous en avons. Alors, il y a deux choses là-dessus à remarquer, une infinité de choses à remarquer, mais le temps d'une émission de radio ne nous permet pas de toutes les explorer, ça nous permet juste d'en supposer quelques-unes. D'abord, une objection tout à fait concrète qu'on trouve dans la correspondance de Nietzsche. C'est une lettre sur laquelle mon camarade Dorian Astor termine sa biographie de Nietzsche. C'est une lettre qu'il recopie ensuite dans Ecce Homo. « Quand je cherche mon plus exact opposé, dit Nietzsche, l'incommensurable bassesse des instincts, je trouve toujours ma mère et ma sœur. Bon. Me croire une parenté avec cette canaille serait blasphémer ma nature divine. La manière dont, jusqu'à l'instant présent, ma mère et ma sœur me traitent m'inspire une indicible horreur. C'est une véritable machine infernale qui est à l'œuvre. » Et cherche avec une infaillible sûreté le moment où l'on peut me blesser le plus cruellement dans mes plus hauts moments. Car aucune force ne permet alors de se défendre contre cette venimeuse vermine. J'avoue, termine-t-il, que mon objection la plus profonde contre le retour éternel, c'est toujours ma mère et ma sœur. Bon, donc c'est
il
la limite.
Nietzsche est très drôle.
Oui, il est très drôle. C'est une des façons les plus drôles qu'il a de se contredire. Donc le seul argument, au fond, qu'il n'arrive pas à surmonter dans la perspective inaugurée par l'éternel retour, qu'il appelle le poids le plus lourd, mais qui est en fait un opérateur de conversion. Transformer ce qu'il y a de plus lourd, c'est-à-dire la promesse que ce que nous vivons reviendra à l'infini, en extrême légèreté, en plus haute légèreté, en insoutenable légèreté, et on retrouve la référence à Kundera. Transmettre cela, comment le transmettons ? Uniquement en le désirant. Uniquement en tenant le démon qui nous annonce que tout reviendra à l'infini, uniquement en le tenant pour un ange. Faire de ce démon un ange. Dire, non pas gémir quand on entend cette sentence, mais au contraire jouir et jubiler de cette sentence, c'est transformer le poids le plus lourd en extrême légèreté. Et qu'est-ce que vous voulez ? Face à la légèreté, la pesanteur ne fait pas le poids. La légèreté est beaucoup plus forte que la pesanteur. Nietzsche est un penseur danseur. Je danse, donc je suis. Nietzsche, et c'est en cela, si vous voulez, que, à ses yeux, tous les autres ont des semelles de plomb. Il est celui qui est capable, ou plus exactement, il est celui qui propose à son lecteur d'être capable d'aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel. Mais alors, pardon Paola d'être un peu long là-dessus, mais c'est quand même très important. Il y a un point, je crois, sur lequel il faut revenir parce qu'il est essentiel, on ne peut pas le négliger. C'est la question de la douleur chez Nietzsche. Nietzsche est l'adversaire des religions, en particulier du catholicisme, du christianisme en général, et plus spécifiquement du catholicisme contre lequel il a vraiment toutes les dents du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de catholique en Nietzsche. On peut le comparer à Jésus à bien des égards, mais il n'y a rien de catholique en Nietzsche au fond. Or, on trouve chez Nietzsche un éloge de la douleur. Or, le dolorisme rédempteur, c'est une invention du christianisme. Que dit Nietzsche? Il dit, il en appelle à la douleur. Il en appelle à la douleur. Mais quel intérêt trouve-t-il à la douleur? Puisque quel intérêt y a-t-il à souffrir chez cet homme qui nous apprend que la douleur ne nous rapporte rien? Que contrairement à ce qu'enseignent les religions, c'est pas parce qu'on souffre qu'on sera heureux plus tard. Donc il n'y a pas de spéculation sur la douleur qu'on ressent. Donc pourquoi rechercher la douleur? Sinon par masochisme? Par jubilation. Alors, d'où ça lui vient, ce désir de la douleur? Nietzsche dit quand même, il dit, « Seule la grande douleur est l'ultime libératrice de l'esprit. Double douleur est plus tolérable que douleur unique. Veux-tu courir ce risque ?»« Seul quelqu'un qui souffre, dit-il parlant d'Épicure, a pu inventer ce bonheur d'un œil au regard de qui la mère de l'existence s'est apaisée. » Jadis, un homme passait par une riche école de torture et de privation physique et reconnaissait même dans une sorte de cruauté pour lui-même, dans un exercice nécessaire de la douleur, un moyen nécessaire à sa conservation. Et puis il y a le fameux passage, hein, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », appris à l'école de la vie. Eh bien, plusieurs choses. D'abord, la douleur, première leçon de la douleur, c'est qu'elle nous apprend le non-sens de la douleur. Quand on souffre, quand on accepte de souffrir, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun intérêt à souffrir. Pour découvrir qu'il n'y a aucun intérêt à souffrir, il faut en passer par là. C'est très facile hein, de suspendre, ou plus exactement d'atténuer la douleur par la perspective des bienfaits qu'elle nous promet. Si vous souffrez ici-bas, c'est que vous serez récompensé plus tard. Non, il faut souffrir pour découvrir qu'en souffrant, il n'y a aucun intérêt à souffrir. Et la douleur, de ce point de vue, nous ouvre à un monde qui est le non-sens. Et puis, il faut bien comprendre que Nietzsche est un philosophe médecin. Or, Nietzsche ne serait pas philosophe médecin s'il n'avait pas été malade toute sa vie. Cet homme-là a ressenti dans sa chair, comme disent les prêtres, la douleur. Il l'a ressenti et c'est de cela qu'il a tiré la matière même de son goût de l'existence, de son intérêt pour l'existence. Un art de la transfiguration, dit-il. Voilà ce qu'est la philosophie. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, des appareils d'objectivation et d'enregistrement sans entrailles. Il nous faut constamment enfanter nos pensées du fond de nos douleurs et les pourvoir maternellement de tout ce qu'il y a en nous de sang, de cœur, de désir, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité. Vivre, cela signifie pour nous changer constamment en lumière et en flamme tout ce que nous sommes. Deux points, je terminerai là-dessus. Premier point, c'est que Nietzsche prolonge là une tradition qui est inaugurée par Socrate, qui est celle de l'idée qu'il n'y a pas de phénomène plus digne que d'autres. Que la douleur comme la joie, si vous voulez, sont des objets d'étude. C'est-à-dire qu'il y a une forme de neutralité morale des phénomènes. Les phénomènes sont là, il faut les penser. Donc la douleur nous permet de penser que tout ce qui existe est pensable, au fond. Il n'y a pas des choses plus pensables que d'autres. Il n'y a pas de valeur en soi. La valeur, c'est celle que notre interprétation dépose sur les choses. La douleur apprend cela. Et le deuxième point, et ça c'est très très subtil chez Nietzsche, c'est qu'il y a chez lui deux catégories d'êtres souffrants. Il y a ceux qui souffrent par surabondance, par excès de vie, et qui, par là même, ont une vision, dit-il, et une compréhension tragique de la vie. Et puis il y a ceux qui souffrent de l'appauvrissement de la vie et qui cherchent dans l'art, du coup, non plus l'exaltation de la vie, mais la connaissance, le repos, le silence, une mer étale, la délivrance de soi. Et ça, c'est Wagner et c'est Schopenhauer. C'est ceux qui font un art consolateur. Sartre est nietzschéen quand, dans la nausée, il dit, il croit que, parlant des cons, ce qu'il appelle les cons, il dit, ce sont les gens qui croient que la musique leur est compatissante. La musique n'est pas compatissante, elle n'est pas là pour nous réconforter, elle est là au contraire pour accroître notre sentiment de vie, quitte d'ailleurs à accroître la douleur que nous avons à vivre. Le meilleur exemple c'est Carmen, Nietzsche aimait Carmen, pourquoi? Parce que Carmen, c'est vraiment joie musicale contre les douleurs de la vie. Elle prend les douleurs de la vie, c'est quand même... Mais non. Un opéra qui vous met en forme quand vous en sortez, alors qu'il raconte une histoire tragique. C'est ça, Carmen. Joie musicale contre les douleurs de la vie. Ou plus exactement, joie musicale à partir des douleurs de la vie. On ne ferait pas de joie s'il n'y avait pas l'expérience, l'épreuve nietzschéenne de la douleur.
Écoutons la vanité des artistes, c'est l'aphorisme 87.
Je crois qu'une trop grande vanité fait ignorer aux artistes ce dont ils sont le mieux capables. Leur esprit vise à quelque chose de plus altier que de paraître seulement de petites plantes nouvelles, étranges et belles, capables de croître sur leur sol dans une réelle plénitude. La bonté dernière de leur propre jardin, de leur propre vignoble, n'est appréciée par eux que de superficielle façon. Leur compréhension n'est pas du même ordre que leur amour. Voici un musicien dont la maîtrise, plus que celle d'aucun autre, excelle à trouver les accents propres aux âmes souffrantes, oppressées, martyrisées, et même à donner le langage aux animaux muets. Nul ne lui est comparable dans les nuances de l'automne avancé. Il sait une résonance particulière à l'intime étrangeté des minuits de l'âme. Il connaît cette lassitude de l'âme qui se traîne, qui ne sait plus bondir, ni voler, ni même marcher. Il a le regard effarouché de la douleur cachée, de la compréhension inconsolable, de la séparation inavouée. Il est le maître des réalités infimes. Mais il refuse de l'être. Son caractère aime bien plutôt les grands murs et les fresques audacieuses. Il lui échappe que son esprit a un autre goût et une autre propension et préfère résider silencieusement dans les recoins de maisons effondrées. Et c'est là que, dissimulé et dissimulé à lui-même, il peint ses chefs-d'œuvre proprement dit, qui tous, fort bref, ne durent souvent que le temps d'une mesure. Ce n'est que là qu'il se montre grand et parfait. Uniquement là, peut-être. Mais il l'ignore. Il est trop vaniteux pour le savoir.
Il y a clairement du Wagner dedans, mais
clairement.
Il y a aussi du Bergotte.
Il y a aussi du Bergotte, oui, le Bergotte de la prisonnière, le Bergotte qui meurt. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de choses dans ce paragraphe-là, une infinité de choses de façon générale, et on n'en fera jamais le tour, et on ne peut que se promener un peu dans ce qu'il nous inspire. Oui, il pense à Wagner. Je ne suis pas sûr qu'il ne pense qu'à Wagner. Mais disons qu'il pense à Wagner. J'ai tendance à penser, à chaque fois qu'il parle d'un artiste, qu'il pense aussi à Schopenhauer, en fait. Et qu'il se ressemble. D'ailleurs, il ne cesse de dire que ce sont, au fond, les mêmes. Ce sont deux versions d'un même soleil un peu pâli. Wagner et Schopenhauer.
Et je me souviens que dans un aphorisme, Nietzsche dit que qu'est-ce que le pessimisme, en fait, le pessimisme allemand ? C'est l'odeur du renfermé des cuisines des cuisinières allemandes.
Oui, alors il y a ça.
La métaphore de la cuisine chez Nietzsche, elle est très présente, notamment dans la première partie de la généalogie de la morale. À un moment, il fait de la cuisine où se mitonnent les idéaux ascétiques, ceux qui vont nous pourrir la vie, ensuite ceux qui vont faire de nous des chameaux et qui vont nous écraser sous le fardeau des valeurs absolues qu'on s'impose pour supporter de vivre dans un monde qui nous ment et donc nous rassure. Il s'en sert comme d'une cuisine. Il dit ça pue, regardez, mettez le nez dans la marmite, vous allez voir comme c'est horrible, et on dirait une sorcière qui cuisine avec de la bave de crapaud, les idéaux ascétiques. La métaphore de la cuisine est très présente chez Nietzsche. Il faut dire que Nietzsche fait partie de ces philosophes qui ont le coup de génie, hein, après Montaigne, de montrer comment la nourriture dicte nos certitudes. Montaigne est celui qui croit ou non en Dieu selon qu'il a bien ou mal mangé. Et Nietzsche, l'estomac est le critère de la connaissance. Bien souvent, il y a presque une école de la connaissance par la digestion. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es ou ce dont tu es capable. Ou dis-moi comment tu manges et je te dirai ce dont tu es capable. Lequel Nietzsche, d'ailleurs, ne mangeait que du cacao, une tasse de thé et parfois une biscotte. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Vous avez parlé de Bergotte. Le passage auquel vous faites référence, j'imagine, c'est la mort de Bergotte. Dans La Prisonnière, de Marcel Proust. Bergotte entend dire qu'il y a une exposition de la vue de Delft, de Vermeer, dont on lui a dit que s'y trouvait là-bas un petit pan de mur jaune particulièrement bien peint. Et le vieux Bergotte, qui est malade depuis longtemps, décide d'aller voir ce petit pan de mur jaune. Il voit ce petit pan de mur jaune si bien réalisé, introuvable, petit pan de mur jaune d'ailleurs, hein, quand on regarde la vue de Delft. Il voit ce petit pan de mur jaune, introuvable, en soi, mais que lui voit, et qui lui fait dire, tiens, mes derniers livres sont trop secs, hein, j'aurais dû les peindre, j'aurais dû les écrire, hein, comme Vermeer a peint ce petit pan de mur jaune. Et à ce moment-là, dans une immense balance, lui apparaissent tous ces livres d'un côté et de l'autre, le tout petit pan de mur jaune. Et on s'aperçoit évidemment que le petit pan de mur jaune l'emporte sur tout le reste. Et que Bergotte, qui est en train de mourir, c'est un des moments où il est dans la pensée d'un homme qui est en train de mourir, Bergotte qui est en train de mourir meurt avec le sentiment de mourir avant d'avoir vécu. Il meurt avec le sentiment d'avoir sacrifié son œuvre au désir de plaire. C'est la vanité des artistes. Les artistes sont trop vaniteux pour savoir où est leur véritable génie. Ce que Nietzsche désigne ici, c'est un artiste qui est victime de lui-même. C'est-à-dire, c'est, disons, pour parler le Kant, c'est le sujet transcendantal de l'artiste. Disons, ce qui lui échappe, ce qui est plus vaste que lui, qui est rattrapé par le sujet empirique, c'est-à-dire le désir de plaire, au fond. C'est-à-dire le désir d'avoir une bonne vie. Bergotte est celui qui a sacrifié son talent au désir de plaire et qui meurt avec le sentiment que, au fond, en mourant, peu de choses resteront de lui. C'est la tragédie absolue de cet homme qui, en voyant un petit pan de mur jaune, comprend tout ce qu'il a fallu de douleur, justement, à Vermeer, pour peindre cela, alors que lui a passé sa vie, en un sens, à consolider, atténuer, échapper à la douleur fondamentale qui a permis à Vermeer de peindre quelque chose comme lui-même ne saura jamais le décrire. Et, au passage, juste pour rester un instant dans la recherche du temps perdu, j'ai remarqué quelque chose l'autre jour, se trouve en travaillant dessus, que Bergotte meurt devant le petit pan de mur jaune. Or, au tout début de la recherche, juste avant l'expérience de la petite Madeleine, dans Combray, donc au tout début de Du côté de chez Swann, le narrateur dit, spontanément, dans ma mémoire involontaire, il n'emploie pas encore l'expression, parce que c'est avec la Madeleine que la mémoire involontaire prendra le pouvoir en lui, en ressuscitant tout le village de son enfance. Mais il est là, il dit, dans ma mémoire involontaire, disons, tout ce qui n'exigeait pas pour être ressuscité, que j'en appelle à la mémoire volontaire, donc tout ce qui me venait sans effort, c'était, dit le narrateur, un pan lumineux qui reliait les deux étages de sa petite maison à Combray, et en fait qui correspond au drame de son coucher, c'est-à-dire à l'escalier qu'il doit emprunter pour aller se coucher quand Swann vient dîner et que sa maman ne viendra pas l'embrasser. Donc c'est le drame du coucher, au fond. Et il dit, tout ce que sa mémoire involontaire lui rappelle avant de manger la Madeleine, c'est juste un pan lumineux à 7 heures du soir. Or, dans le tableau de Vermeer, il est 7 heures. De sorte que le petit pan de mur jaune d'un tableau à 7 heures, 7 heures dont on ne sait pas, parce que la lumière ne nous l'indique pas, si c'est 7 heures du soir ou 7 heures du matin, on a donc dans La Prisonnière un homme qui meurt devant un petit pan de mur jaune peint à 7 heures du soir ou du matin, qui renvoie à un petit pan lumineux qui correspond à la tragédie d'un enfant, qui, ne sachant pas encore regarder le monde séparément du besoin qu'il en a, réduit sa mémoire involontaire au spectacle de ce petit pan lumineux. Il n'a pas encore appris ce que Nietzsche enseigne dans Le Gai Savoir, c'est-à-dire à regarder le monde séparément de lui, à s'attarder sur un monde inhumain. C'est le fameux paragraphe, je vais vous le lire quand même, ça vaut le coup, c'est le fameux paragraphe 346 du Gai Savoir. On est 5 pages après le paragraphe sur l'éternel retour. Et il dit, ça s'appelle notre point d'interrogation, et il dit ceci, entre autres, il dit « Nous avons été aiguisés, nous sommes devenus froids et durs, à force de reconnaître que rien ici-bas ne se passait de façon divine. Pas même selon les critères humains, de façon raisonnable, miséricordieuse ou équitable. Nous le savons, le monde dans lequel nous vivons est non divin, immoral, inhumain. Nous l'avons trop longuement interprété de façon fausse et mensongère, mais interprété selon le désir et le vouloir de notre vénération, c'est-à-dire selon un besoin. Car l'homme est un animal qui vénère. » Et c'est fondamental parce qu'on comprend ce que c'est que le Gai Savoir, là. Le Gai Savoir, c'est quoi? C'est l'aptitude à regarder le monde séparément du besoin qu'on en a. Parce que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Et en regardant le monde séparément du besoin qu'on en a, on transforme chaque phénomène, du plus douloureux au plus délicieux, en autant, et là pour le coup l'expression est de Proust, en autant d'énigmes de bonheur ou d'énigmes de gaieté. Et c'est en cela, effectivement, que le passage sur la vanité des artistes, les artistes qui se voilent, qui se masquent leurs propres talents, parce qu'ils ont envie de plaire, parce qu'ils ont envie que le monde leur fasse plaisir, et c'est bien humain, et c'est bien normal, hein. Eh bien, cela manque précisément ce que la vie peut avoir de savoureux, c'est-à-dire ce qu'elle peut avoir de plus rugueux également, ce qu'elle peut avoir d'infiniment léger, c'est-à-dire ce qu'elle peut avoir de plus lourd, c'est-à-dire le fait qu'au fond, le monde n'est pas là pour nous, et nous n'en sommes pas le centre. Et c'est en partant de cette leçon, c'est-à-dire en s'oubliant suffisamment pour admettre ça, qu'on produit le Gai Savoir.
On voudrait vivre mais ça veut dire, on voudrait vivre encore. La même chose.
Qu'est-ce qu'on entend là, Paola?
Oui, Raphaël, c'est la chanson très Nietzschéenne de Gérard Manset, Revivre, qui termine le très beau film de Carax, Holy Motors.
C'est votre choix, hein?
Oui, et je conseillerais le film encore un nombre infini de fois s'il le fallait.
Oui, c'est une chanson sur l'éternel retour. Merci, Paola.
Se sentir si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense. Si le ciel nous laisse, on voudra revivre.
Voilà, merci Paola, merci à tous. Ainsi s'achève à l'heure de commencer la toute première version du Gai Savoir, qui chaque semaine reviendra pour vous donc sur un livre majeur. L'enjeu est simple, c'est de constituer une bibliothèque orale pour vous, où chacun pourra, à son gré, selon ses envies, son bon cœur, piocher les pépites qui l'arrangent ou qui le dérange. Un grand merci à François Connac, notre réalisateur, votre réalisateur, comme on dit, et un grand merci aussi à Alain Joubert, à la technique. On se retrouve dimanche prochain, donc, de 16h à 17h, pour y parler cette fois du Banquet de Platon, le premier des chefs-d'œuvre, en tout cas chronologiquement, un texte où il est dit que la philosophie est d'abord une affaire d'amour.
Qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense.
Sachez aussi, auditeurs philosophes, que les nouveaux chemins de la connaissance d'Adèle Van Rett reviendront cette semaine, hein, la semaine qui vient, sur la question passionnante de l'éducation. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est tous les jours de 10h à 11h sur la meilleure radio du monde.
Où l'on était son monde qui monte et qui descend.
Allez, 17h sur France Culture, tout de suite, vous avez rendez-vous en tête à tête avec Frédéric Taddeï.